In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Et donc, on démarre par quoi? En disant quoi?
C'est
toi qui démarres?
Bah non.
Juliette?
Non, toi, tu dis...
Non, c'est toi.
Hein?
Moi, je vais démarrer, si vous voulez.
On fait
un et deux,
et celui qui est seul démarre.
Là, on est déjà dans le concept de la fabrique.
Allez,
c'est comment on crée déjà.
Voilà. Voilà. Exactement.
Comment donc, on débute.
Alors, allez, pour les un, et deux, deux et trois. Attends, faut dire aux auditeurs, on fait un ou deux avec les doigts. Et non, et celui qui est tout seul, celui qui démarre.
Il faut que vous ayez la même règle du jeu parce que sinon, on va pas s'en sortir.
Allez, à trois.
Un,
deux, trois. Allez, François, c'est à toi.
C'est moi.
Voilà, bien fait pour ta gueule.
Les acédiques des Hauts-de-Seine, bonjour.
Podcast La Fabrique, numéro 1.
Ouais. Oh, numéro 0, putain.
Pourquoi 0?
Parce que c'est un essai, c'est toujours le numéro 0.
Attendez, parce que c'est hyper agressif comme début. Parce qu'il y a quand même une personne qui vient de se faire insulter au bout de la première phrase.
Je
suis pas sûr d'être prêt pour ça.
J'ai pas dit connard, j'ai dit putain.
Oui, d'accord.
C'est pas François qui était...
D'accord, mais c'est pas un numéro 0 parce que de toute façon, même si c'est nul à chier,
c'était une bonne idée,
on le publiera.
Moi, pour l'instant, j'aime bien.
Donc c'est le numéro 1.
Je quitte l'aventure. J'ai réuni les deux personnes qui se détestent le plus.
Mais non, en plus, moi je l'adore, Juliette.
C'est en fait Thierry Ardisson, quoi. Tu réunis des gens qui peuvent pas se blairer pour créer du clash.
Donc là, comme je viens de démarrer, je vais maintenant donner la parole à Ramzy qui va expliquer le concept de La Fabrique, le podcast.
Oui, mais est-ce qu'il est au courant de ce concept?
C'est un génie. Donc le podcast La Fabrique, c'est un podcast sur la création avec Juliette Arnaud. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Coucou Juliette.
Bonjour Juliette.
Ça va être long.
C'est important la politesse aussi.
François Audouin, salut.
Salut François.
François Audouin qui est réalisateur de l'émission C'est encore nous sur France Inter, qui est également comédien, également réalisateur de courts-métrages.
Voilà.
Et auteur de sketch, les 20 secondes avant l'antenne, que tu connais évidemment.
Mythique, c'est mythique.
Ça y est, c'est devenu culte.
Ouais. À l'époque, personne n'en voulait, faut se rappeler, les 4-5 premières années, c'était vraiment hyper laborieux.
Et
puis d'un coup, ça a décollé. Quoi.
Voilà. Depuis cette année, on le fait maintenant.
Oui, voilà, c'est ça.
Mais il a fallu beaucoup travailler.
Ouais. Et ça, c'est une bonne leçon. Je pense qu'on y reviendra pendant le podcast.
Et oui, parce que c'est important
travail,
de savoir. Voilà. Parce que les gens pensent que tout de suite, on arrive, c'est comme la Starac, on shot, tatati, tatata, ça y est, t'es une star. Non, le travail, la fabrique va montrer ce que c'est que avant de réussir quelque chose.
Juliette Arnaud,
une émission produite par le maréchal Pétain. Les valeurs du travail.
Juliette Arnaud qui est comédienne, réalisatrice.
Ah oui.
Réalisé au moins un film.
Et un documentaire.
Et un documentaire, réalisatrice de film. Autrice.
Ouais.
Tu as écrit combien de livres? 4? 3? 2 romans
3.
Et un livre jeunesse. Et également chroniqueuse radio sur France Inter, bien entendu. perdu.
On vous entend quand vous faites du petit bordel avec votre micro. Intéressez-vous quand même à ce qui se passe autour de la table.
Ouais, non, c'est bon. Si vous entendez beaucoup de bruit aussi, c'est qu'on enregistre le podcast chez Juliette et qu'il y a Kiki,
oui,
sa chatte,
qui fait partie du...
beaucoup.
Qui a une clochette. Donc,
qui a une clochette et donc qui fait beaucoup de bruit.
Et surtout que c'est Ramzy qui réalise le podcast. On a inversé les rôles. C'est lui qui a tout branché, la console, les micros. Non, on s'en fout pas. C'est important parce que tu...
Ben là, on est sur un podcast sur le processus de création.
Exactement.
Donc les gens ont envie de savoir comment ça se passe.
Exactement. Et donc, notre invité, c'est Guillaume Meurice.
Oui,
bonjour,
c'est moi.
Guillaume.
Bonjour.
9 minutes d'enregistrement.
Et déjà, beaucoup de choses se sont dites. J'ai l'impression que c'est parti très, très fort.
Mais attends, on n'a pas dit qui était Ramzy.
Eh oui, Ramzy.
Ramzy,
le rédacteur en chef de l'émission, c'est encore nous, avec Jupiter. Auteur.
Qui... Auteur d'un livre sur l'islam.
Ouais. Également.
Voilà, il faut quand même le préciser par les temps qui courent parce qu'il y a du courage.
Auteur de beaucoup de blagues.
Oui. Sur l'islam.
Sur l'islam aussi.
Et vraiment spécialisé sur l'islam.
Mais pas dans les livres. Hein, pas dans
non,
les
pas
livres.
Dans les livres. Dans le bureau.
Voilà, dans le bureau. Quoi d'autre ? Comment tu peux te présenter
Là, c'est tout bon, je pense que vous avez fait le tour.
Ouais.
On va poser nos premières questions, non ?
Ouais.
Ouais.
Vas-y.
Ah, genre, vous avez quand même préparé des trucs.
Non, mais alors, j'ai quand même fait une doc sur toi.
Ouais, mais vous avez une stagiaire. C'est cool.
Donc, c'était une feuille A4. Donc,
il a fait 4 spectacles.
Ouais.
Ah ouais.
T'as fait 4 spectacles. T'as fait donc des chroniques depuis 2012 sur France Inter.
C'était quoi les spectacles ? Parce que moi, j'en connais qu'un, le dernier.
Le premier s'appelait Annulé. Voilà, ça
annulé,
donc, peut-être on en reparlera sur le processus de création, trouver un bon titre à son projet, c'est très important.
Mais ça, d'ailleurs, c'est un de tes premiers projets créatifs, non ?
Oui, peut-être
donc,
même le premier.
T'as démarré par un échec tout de suite.
Tout de suite, voilà, comme ça c'était fait. Après, j'en ai enchaîné sur un deuxième.
Mais
annulé, c'était avant les clés de la voiture de Baffy
Non, c'était après, ouais, c'est pour ça qu'on m'avait déjà déconseillé d'appeler
mon spectacle annulé. Oui, c'est ça, il y avait eu un précédent, normalement.
Sachant qu'il y avait déjà un gars qui était pour le coup très très connu.
Tu peux peut-être raconter l'histoire ?
L'histoire, c'est mon premier one-man show et quand on débarque dans le milieu de l'humour, on se dit qu'on va tout révolutionner, que les gens ils vont jamais avoir vu ça, que ça va être incroyable et que du coup on n'avait que des idées de génie. Et ma première idée de génie, c'était d'appeler mon spectacle annulé en misant tout sur le second degré des gens. Alors, ouais. les gens ils sont du second degré.
À cette époque, tu faisais pas encore de micro-trottoir.
Non,
tu savais pas que les gens avaient pas forcément de second degré.
Donc, sur l'affiche, c'était marqué le nom d'un gars inconnu, donc Guillaume Meurice, c'était marqué annulé. Et donc, il y a même mes potes, ils regardaient sur internet, c'était marqué Guillaume Meurice annulé sur Biéréduc.
Mais oui. Mais si, tu peux.
Et je disais, si, c'est justement, je racontais en fait dans le spectacle un spectacle qui s'annulait. Donc, c'était hyper pertinent et tout. J'étais un génie, quoi. Comme tous les génies, quoi. Voilà. Ouais. Bon, voilà. Trop d'avance sur mon temps.
Ouais.
Trop décalé. Et j'ai changé assez rapidement. Non, hein, j'ai eu 3 mois, je crois. J'ai gardé comme ça. Donc, j'annulais vraiment, ce qui créait en fait une sorte de truc un peu méta. qui me confortait en me disant, j'ai bien fait de l'appeler annulé, etc.
Puis non, après. Trois mois, quand même.
Ouais, ouais, ouais.
Et après,
personne t'a conseillé.
Pardon. Si, tout le monde m'a conseillé de changer, sauf mon metteur en scène, qui est encore un pote aujourd'hui, malgré tout, qui s'appelle Luc Martin, que je salue et qui je fais encore des projets.
Mais qui, c'était la première fois qu'il mettait en scène un spectacle.
Oui, on était vraiment les deux guignols qui ont débarqué là-dedans.
Mais
on se marrait bien.
Tu faisais ça dans quelle salle ?
Alors, j'ai commencé une petite salle vers Nation à Paris, donc qui s'appelle le Bourville.
Et les gérants de la salle t'ont pas conseillé donc
eux aussi m'ont conseillé. Ouais. Non, vraiment, tout le monde m'a dit, non, c'est une mauvaise idée. Non mais c'est ça raconte l'histoire d'un spectacle. Oui mais on s'en fout. Et en fait une affiche, donc ça peut servir pour le podcast La Fabrique. Une affiche, ça doit donner envie aux gens d'aller voir le truc quoi.
Ah.
Ça doit pas forcément être une belle affiche. Des fois là aujourd'hui les gens ils me disent mais tes affiches elles sont dégueulasses. Je m'en fous parce que je fais pas des affiches en fait. Je fais des spectacles. Donc faut juste qu'elle accroche le regard, qu'on s'arrête, que l'œil il s'arrête dessus. Faut accéder directement à la partie du cerveau la plus con des gens. Ça c'est la première leçon.
C'est pour ça que là ton affiche c'est une affiche présidentielle parce que c'est
voilà
cool, le truc,
c'est
le
dans les codes voilà, les gens ils regardent mais c'est aussi pour ça qu'il y a des meufs à poil sur les affiches un peu moins maintenant mais c'est parce que c'était vraiment la même logique quoi, c'était vraiment le truc qui attire le regard et après tu vends des pneus quoi.
Ouais. Toi Juliette, quand t'as fait Arrête de pleurer Pénélope la première fois, donc le premier vous aviez une affiche, vous aviez un...
Oui, on avait un flyer, c'était le mec de Christine Anglio, qui est une des comédiennes et autrices de la pièce, qui savait un peu dessiner, un peu. Et il avait dessiné 3 petits personnages, comme s'ils étaient 3 personnages féminins, comme s'ils étaient découpés... vous savez, des petits personnages en silhouette qui se tiennent la main.
Ouais.
Des enfants,
non ? Oui, et on trouvait que ça avait un sens, puisque nous, quand on a écrit cette pièce, on pensait que les 3 personnages, en fait, c'était une seule et même personne.
Ouais, ça a toujours du sens quand on commence à faire.
Nous, ça nous semblait cohérent.
Ça, on arrive, au début, on se met pas à la place des gens qui vont recevoir le truc. On se dit, c'est bon.
C'est très intérieur.
Le projet est très cohérent.
Oui, voilà, c'est ça. Et nous, ce qui compte pour nous, c'est la cohérence à l'intérieur de nous. Oui, mais
première erreur.
Mais en même temps, c'est un peu nécessaire parce que c'est ça qui. C'est toutes les petites choses cohérentes, c'est ce qui te permet de continuer à le faire quand t'as deux personnes dans la salle.
Et après, ce que dit Guillaume, faut mettre des filles à poil. Pour sa vente, est-ce que c'est un producteur vous a demandé de faire ça?
Ben ils n'ont pas eu besoin parce que
moi j'ai bien poil.
Non mais moi j'étais un peu finaude et à la fin de la pièce, comme chacun des trois personnages avait un moment où on voyait comment elle se projetait. Comment on l'avait vue pendant une heure et demie, comment elle était pour de vrai et comment elle se projetait. Ça finissait la pièce, se finissait là-dessus. Et moi, mon personnage faisait un striptease sur une chanson des Beatles qui s'appelle Why Don't We Do It in the Road. Et donc, j'avais passé toute la pièce à être odieuse, agressive, et je finissais en me mettant à moitié à poil. Et dans ma tête, je me disais, quand on va filmer ça et qu'on l'enverra à des patrons de théâtre, s'ils ne nous prennent pas pour notre talent, ils nous prendront toujours parce qu'il y en a une de nous qui est à moitié à poil. Bah ça, c'est ça, c'est comme ça.
Ça marche. Ah, c'est vrai.
Bien sûr.
Ça a marché.
Il nous l'a dit.
Ça a marché.
Une affiche putassière et mettez-vous à poil dans les spectacles. Partez bien dans la vie.
Ça a marché pas forcément pour le public, mais en tout cas, ça a marché pour les patrons de théâtre.
Le premier patron de théâtre, de café théâtre ridicule, enfin ridicule par sa taille et tout ça, qui ressemblait plus à une cave qu'à un théâtre, il me l'a dit des mois après. C'était le Boui-Boui à Lyon. Et il me l'a dit des mois après, quand ça commençait on s'entendait bien et que ça commençait à cartonner. Et il m'a dit, quand je pense que si je t'avais pas vu à moitié à poil, j'aurais pas pris cette pièce.
On est peu de choses, hein. On est peu de choses.
Mais est-ce que ça marche pour les hommes? C'est ça la question. Est-ce que moi, par exemple, sur un spectacle, je me filme à poil, ça va?
Bah, j'étais pas à poil, hein. Je tiens à
non,
dire.
Mais je fais un
parce que mon père est venu voir cette pièce. C'était déjà assez douloureux de faire ça devant lui.
Un petit string léopard, tu vois, par exemple.
Non, mais essayer, François,
non la nudité, la nudité n'a pas le même effet sur les femmes.
Alors, serait quoi l'équivalent pour... C'est parce que je veux faire un spectacle aussi. Alors, c'est quoi l'équivalent pour un homme? Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour accrocher le regard?
Il va falloir que ce soit une chose plus suggestive. Si tu veux accrocher les filles, bien sûr.
Non, moi, je veux patron de théâtre, comme toi. Business, quoi.
Hey.
Ah. Non, mais déjà, avec le grand conseil de Guillaume sur les codes les plus simples...
Ouais.
On sait où on est, déjà. Voilà, c'est ça, il faut aller déjà au plus simple.
Mais aussi, il ne faut pas hésiter à se tromper. Hein. De toute façon, tu vas te planter.
Puis tu l'as refait, là. Puis tu l'as refait plein de fois. Moi, la première affiche de l'arrêt de pleurer Pénélope, avant qu'on arrive à la dernière, celle qui a été de partout, franchement, il y en a eu 2500. On a tout essayé.
Ouais.
Et on a fini par faire comme tout le monde.
Et tu peux changer de titre aussi en cours de...
Et oui,
d'ailleurs, arrêt de pleurer Pénélope... Ça s'appelait au départ « Oh, arrête de pleurer Pénélope ».
Ah, il y avait même une citation de Homère avant, en latin. Ça commençait par...
Ah oui, il y a carrément une citation. Veni, vidi, vici.
Non.
Ah bon.
Et à la fin, bam, ça faisait « Oh, arrête de pleurer Pénélope ». Il fallait avoir l'accent marseillais dans la tête.
Oui, évidemment, comme tout le monde là.
Et tu t'es dit, voilà, c'est ça.
Ouais, mais c'est ça, c'est le spectacle vivant. Du coup, tu peux changer le titre, tu peux changer les phrases dans le texte, tu peux tout changer au fur et à mesure, quoi.
Et toi, c'était quoi? T'as changé en quoi, le titre?
J'ai changé en mort de rire, parce que mon personnage principal, c'était la mort.
Ah, oui.
Je faisais des sketchs à costume, avec des accessoires, donc une faux... Une grande cape noire, etc.
Je tu faisais les caméras cachées aussi.
Et après ça, je m'en servais pour faire de la publicité, pour faire de la promo.
Et là, il a marché le spectacle.
Sur Dailymotion, on postait ça.
Et là, il a marché le spectacle.
Là, il a marché un peu mieux. Bon, un peu mieux, c'est relatif, hein, parce que je jouais au chapeau à l'époque. Donc, entrée gratuite à la fin.
Il y avait des gens qui venaient, quoi.
Il y avait des gens qui venaient, ouais. Et après, je l'ai changé, parce que j'assumais pas trop le mort de rire. Je l'ai changé en Tout le monde y passe.
Ah, encore.
Espèce de...
C'est pas du tout la même idée.
Bah, il y avait la mort, Tout le monde y passe. Il y avait Tout le monde y passe au spectacle. Et c'est une citation d'une pièce de Molière dans laquelle je jouais à l'époque. Ah, ça calme là.
Tu jouais quelle pièce de Molière?
C'était la première, L'étourdi. C'est une sorte de brouillon de toutes les autres pièces de Molière d'après. Donc on retrouve des bribes de machin, de Tartuffe, de...
Et alors toi, tu joues quoi, le valet espiègle?
Moi, je m'en rappelle plus. Je jouais plusieurs rôles là-dedans. Ouais, je jouais. C'était pas le premier rôle.
Non, mais...
Mais on se marrait bien, il y avait de la marionnette, il y avait des blagues potaches... C'est très rigolo. Céline Texier-Cholet, à la
Puisque tu as fait 8 ans de cours Florent.
3 ans.
Ça en durait ressenti. Je me suis pas éclaté au cours
Avant que les profs y perçoivent tes qualités ou pas, sur 4 ans, ils n'ont pas dû les voir tout de suite. Les rôles dans lesquels les autres te voyaient ou les profs te voyaient, c'était quoi? Tu te voyais comment?
Non, ça a toujours été des trucs rigolos.
Toujours.
Ouais, toujours.
Mais il n'y a pas eu. Y a pas
y a eu
genre...
des tentatives.
Ah, quand même, il y a eu des gens qui se sont dit attends, moi j'ai envie de le mettre dans, je sais pas, le pape, dans Lucrèce Borgia ou.
Ouais, ouais. Je faisais énormément de répliques parce que. Donc les répliques, c'est des gens qui bossent leur scène et qui ont besoin de d'autres personnes pour leur donner la réplique.
Pour qu'eux puissent briller.
Pour qu'ils soient bien mis en valeur. Donc ils me prenaient moi. Non, ils me prenaient moi parce que j'étais souvent dispo et voilà, de bonne composition.
Tu faisais pas d'ombre.
Je faisais pas d'ombre, franchement. Mais par contre, c'est vrai que je faisais assez rapidement marrer les autres. Donc, mais j'ai fait des.
Donc tu volais les scènes.
Non. Par exemple, j'ai un très très bon souvenir en deuxième année d'avoir bossé Mesure pour mesure de Shakespeare, qui est une tragédie assez hardcore, quoi. Il y avait vraiment pas beaucoup de place pour la gaudriole. Et moi, qui faisais d'habitude des Phédo ou des trucs courtelines, un peu poète machin. Là, vraiment, tout le monde se marrait, quoi, à chaque fois que je parlais. Mais malgré moi, hein. Là, c'était vraiment malgré moi, quoi. C'était même quasi. Enfin, c'était un peu de la moquerie, mais même pas tant. C'était juste que, voilà, c'était pas mon registre. Et je me souviens que le prof avait engueulé la classe, quoi, en disant putain, vous voyez bien, Guillaume, il se met en danger, il essaie de faire un truc qu'il fait pas d'habitude, il y va à fond, donc au moins, respectez ça.
Oui, mais est-ce qu'il projetait toi en train de jouer, mais est-ce qu'il voyait vraiment ce que tu jouais? Ou est-ce qu'il... Tu vois ce que je veux dire?
Non.
Est-ce que le prof, quand il les engueule, est-ce qu'il se dit Guillaume, il se met en danger? C'est-à-dire qu'il joue vraiment le personnage. D'ailleurs, c'était quoi le personnage?
Je m'en rappelle plus, mesure pour mesure.
En tout cas, c'était un rôle tragique.
Ouais, c'était un rôle tragique.
Oui.
Ouais.
Genre, si quelqu'un ne te connaissait pas du cours, était venu te voir, il aurait pris la tragédie telle qu'elle
j'en
est ou
rien,
il aurait rigolé?
J'en sais rien. Okay. Non, je pense pas. Non, ça, c'est un peu mystérieux. Hein. Mm. Pourquoi tu fais marrer les autres?
Oui, il y a des gens comme ça.
Et pourquoi pas? Et moi, je me souviens que ça m'avait pas du tout vexé. Que la classe se marre en fait. Parce que je savais que je voulais faire des blagounettes. Et même ce prof-là, qui était un prof un peu genre théâtre contemporain à la colline, théâtre subventionné, tout le monde à moitié à poil, à se verser du sang sur la gueule. il m'a toujours respecté là-dedans. Il détestait le one-man show, quoi. Ouais. Il disait c'est pas du théâtre, etc. On se prenait un peu la gueule parfois, des fois, avec ça. Et il m'a toujours dit je
sais pas. Parce que toi, tu savais que tu voulais faire du one-man.
Okay. D'ailleurs, deuxième anecdote, au cours Florent, en deuxième année, il y a eu une échéance, donc tu passes devant un mini-jury, quoi, qui s'appelle scène libre, où tu passes vraiment exactement ce que tu veux, de 5 minutes, le texte que tu veux, quoi, ou même pas de texte, tu fais du mime, tu te fous à poil, tu vomis. Je me souviens qu'il y en avait une qui avait vomi, d'ailleurs.
Non.
Si tu vraiment, tu fais ce que tu veux. Et moi, avec un pote, un peu par provocation, j'avais pris Élie et Dieudonné. Donc Dieudonné n'est pas encore le Dieudonné d'aujourd'hui, mais c'était voilà, par provocation, je dis ça, parce que c'était vraiment le truc poète-poète. Normalement, toi, là,
la provocation
quoi.
Par rapport à Dieudonné.
Non, la provocation.
Passé,
pas.
Non,
parce qu'à l'époque, il était encore.
Ok, à l'époque, il était encore.
Un duo comique, ouais. Vraiment. Okay.
Et à la fin, donc, toute la classe s'était marrée. Donc, moi, j'étais content, j'étais à l'aise et tout. Et à la fin, le jury m'avait défoncé, quoi. Ouais. Mais moi, je leur ai dit, mais j'y peux rien. Les gens, ils ont rigolé, ils n'ont pas un flingue sur la tempe. A priori, on fait une scène de comédie. Je suis désolé. Et c'est ça qui est bien avec l'humour, c'est que. T'as pas besoin de l'aval de quelqu'un. Si les gens ils se marrent, c'est marrant, quoi.
Oui, c'est ça.
Tu peux avoir des humoristes que t'aimes pas, toi, personnellement. S'il y a une salle de 1000 personnes qui se marrent à leurs blagues, ça les force, quoi.
D'ailleurs, c'est pour ça que quand t'as des jurys, c'est problématique pour eux, parce que en fait, ça les met hors jeu, puisqu'en fait, ils peuvent plus juger, quoi. Un drame, Festival de Cannes, ce que tu veux.
Ça encore.
Tu peux donner ton avis, changer le point de vue, tordre un peu la réalité pour dire que tel truc est mieux que tel truc. La comédie, il y a la sanction du rire et donc ça met en jeu un jury, donc c'est peut-être pour ça qu'ils étaient énervés.
Et puis tu peux prendre ta cousine ou ton beau-frère aussi dans les scènes dramatiques, parce que bon, possiblement ça va pas se voir, on va mettre du violon derrière, mais si t'es le cousin d'un mec qui fait du one-man show très connu, ça va pas t'aider en fait.
Non.
Peut-être qu'il aura des contacts dans les salles, mais si c'est genre... D'ailleurs, il y a des bons exemples avec les fils de Coluche, il y en a un des deux je crois qui a essayé... de faire de la comédie et la pression est trop forte, quoi. Le fils de Coluche, les gens ils rentrent dans la salle,
mais c'est un coup à se fracturer la psyché, quoi.
Enfin, ouais.
Quel moment tu t'es, on en parlait pas mal avec Ramzy, de ce qui constitue des freins, hein, ou des freins au fait de devenir un jour écrivain, humoriste, et donc moi, je me suis collée dans ma vie des freins, et ça fait que je suis arrivée très, très tard à m'autoriser. Je date au moment où je rencontre les filles d'Arrête de pleurer Pénélope, et ça a été accident sur accident. Et en fait, c'est un accident qui me conduit à dire aux filles, venez, on écrit. Parce que je ne me l'autorisais pas avant.
Ouais.
En revanche, j'ai toujours écrit. Enfin, du moment où j'ai su lire, j'ai écrit.
Ouais.
Et je voulais savoir, toi, est-ce que tu as eu est-ce que tu vois maintenant, rétrospectivement, un moment où tu t'es dit... Très clairement, c'est là, c'est ma direction, j'y vais et j'y vais.
Ouais, mais alors ça s'est fait un petit peu a posteriori aussi. C'est-à-dire quand je me suis inscrit, donc moi je suis vraiment le
patron. Après le conflant ?
Non, pendant.
Ah.
Je me suis inscrit au cours de théâtre, je venais vraiment cliché, le mec qui vient de sa province avec sa petite valise, les
mais
petits boulots pour payer
le
cours, etc.
Le fait de s'inscrire au cours Florent, c'est que tu t'autorises déjà
ouais,
à le faire.
Un peu, mais moi je suis assez curieux dans la vie, c'est pour ça aujourd'hui je fais plein de trucs, mais c'est parce que j'aime bien voir ce qui se passe quand
pas
on fait
dit
ça.
Que... Okay.
Puis si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave, c'est, je pense qu'il y a toujours du bon à prendre dans les expériences.
Oui, voilà, ça...
Je vise pas un résultat, quoi. Okay. Je vise un peu le fait de le faire, ça me suffit souvent. Et donc là, je me suis dit, bah tiens, on va tenter ça. Ma mère me disait quand même pas mal dans mon adolescence, tu devrais faire du théâtre parce que j'étais un peu casse-couille avec les profs. Donc,
ah oui, donc il y avait des gens autour de toi,
ouais,
pas n'importe
souvent,
qui.
C'est ça. Ouais.
Bah, c'est... Ouais, mais c'est... Non.
C'est des petites graines. Non, mais souvent, dans ma vie, souvent, c'est
ah
ça.
Ah oui, ok.
Ouais.
Donc, mais il y avait quelqu'un quand même de très très proche parce que toi, t'as une vie familiale,
t'as passé
ta vie en pension. Donc, donc ta maman, c'est pas anodin. Et elle c'est elle qui.
Ouais, elle a pas insisté, quoi. Mais
non, mais c'était une chose qu'elle a
planté la petite graine et tout dans le cerveau. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dit, vas-y, je vais essayer ça. Et je savais pas trop ce que ça allait donner, quoi. Donc je me suis inscrit, je suis arrivé à Paris, machin, paf. Et il y a une espèce de petit stage de 3 semaines au cours Florent. À l'époque, c'était comme ça. Où à la fin, tu passais devant un jury. Pareil, toujours pareil, les échéances. Et là, j'avais moi un texte. Ça, je m'en rappelle, c'était Le Fils. La pièce s'appelle Le Fils et je jouais le rôle d'un journaliste belge. D'un petit monologue de, je pense que ça durait 2 minutes.
Il y a des signes.
C'est pour ça que je le spécifie. Mais... Et je me souviens que toute la classe s'est marrée. Et je me souviens vraiment précisément de ce moment-là où je me suis dit, c'est bon, c'est ça.
Okay.
Et là, c'est ma place.
Et ça t'était déjà arrivé comme collégien, lycéen ou même à l'école, comme écolier, de faire rire tout le monde?
Ouais, ça, oui, ça, c'est un peu le truc classique des humoristes, ouais.
Okay.
Oui, oui, t'es les petits cons de la classe, ouais. Pas spécialement finaux, mais ouais, la sensation de faire rire les potes. Puis c'est aussi un super truc de défense dans la cour d'école. Si t'es capable de renvoyer une vanne, on te fait pas chier, quoi. Soit tu casses la gueule aux gens, soit tu les vannes et normalement t'es tranquille.
Ouais. Soit t'as une stratégie d'évitement et tu vis sur la périphérie de la cour en évitant de croiser le regard.
Moi je faisais des vannes, mais en 5e j'avais un mec qui m'a harcelé et qui me tapait dans les pieds avec ses Doc Martens. Ça...
Ouais, alors faut faire des bonnes blagues, pardon, j'ai oublié de.
Et toi François, à la base t'es réalisateur radio, donc un poste un peu plus technique que créatif.
Dans ce que tu
faisais à RFI, c'était plus technique?
Non, c'était aussi artistique. Alors, j'ai fait longtemps les infos, donc c'est pas vraiment technique, mais c'était plus de la coordination. Mais en fait, réalisateur en radio, moi, je suis pas réalisateur radio.
Non, je parle à la base, avant que...
Ouais, mais à la base.
Ouais.
Ouais, en fait, je suis arrivé où déjà les réalisateurs radio étaient des techniciens, souvent dans beaucoup de chaînes, sauf à Radio France et RFI, parce que moi, j'ai commencé à RFI. Et donc j'ai jamais tenu la console, moi. Et en plus c'est vraiment un truc qui me fait un peu chier la technique.
D'accord,
en
mais
vrai.
Donc t'étais réalisateur radio et ensuite tu t'es dit je veux être comédien.
Ou
non, c'est venu quand là cette envie d'être comédien?
Alors moi ça va être long à expliquer. C'est le podcast de Guillaume. Hein.
Non, mais c'est le podcast de tout le monde. Donc,
ah bon oui. C'est Guillaume l'invité.
Bah oui, bon,
oui bah en fait, l'idée c'est que tout le monde parle.
Ah, c'est Kiki l'invité.
Ah, d'accord.
Il y a Kiki.
Non, alors, je vais synthétiser très très vite. Moi, en fait, ado.
En 1860 avec mon ancêtre, Marguerite de Audouin.
En bon réalisateur, je vais faire des ellipses. On va faire des sauts dans le temps. Non, ado, moi j'étais musicien au départ. Et j'ai, en fait, on va dire, mon leitmotiv, c'est un peu touche à tout. Et comme Guillaume, il y a beaucoup de choses qui m'intéressaient. Et donc, j'ai fait au moins 5 instruments, guitare, batterie, clavier. Mais rapidement, j'étais batteur dans un groupe. Et en fait, au moment du bac et tout, il fallait décider de ce que je voulais faire. Et ça me faisait chier. Merci Kiki qui rentre dans
vous
mon micro.
Vous entendez du bruit. Comme
j'avais rien branlé, j'étais dans un lycée technique avec 90% de mecs. Donc j'ai dit, il faut que je m'en sorte. Donc j'ai bossé et j'ai dit, je vais faire une école audiovisuelle. J'ai été refusé partout. J'ai réussi à faire l'ESRA à Paris. Et en fait, ce que je me suis dit, je vais bosser dans les studios de mixage musique.
Qu'est-ce que c'est l'ESRA?
L'ESRA, c'est l'école supérieure de réalisation. Ah okay. Bah là, c'est une école. Et donc, j'ai fait la section son, ISTS. Okay. Et en fait, donc je me dis, je vais apprendre la technique, comme ça je bosserai dans les studios de... Mais je ne m'étais pas dit, tiens, je vais être musicien.
Studio musique.
Ouais. Je m'étais dit, je ne vais pas être musicien. Pour diverses raisons, dont aussi une construction, je pense, familiale. Qui m'ont encouragé, mais il y avait toujours ce truc de ouais, mais artiste,
c'est pas fait pour toi,
c'est pas fait pour toi, faut travailler, Beaucoup j'ai entendu ça parce que j'étais un peu branleur à l'école, mais c'est parce que ça m'intéresse pas. Si un truc m'intéresse, je peux beaucoup travailler, mais je le savais pas encore. Donc par défaut, je me mets dans une voie plus technique, et puis au fur et à mesure de l'école, ça m'intéresse plus trop la musique. Là, en fait, j'ai une découverte vraiment cinématographique parce que je suis dans une école ciné. Je commence à me faire ma propre culture cinéma et je me dis, je veux faire du son dans le ciné. Au parallèle à ça, je commence à bosser à la radio dans les stages, je deviens réalisateur à la radio. Sortie d'école, j'arrête la radio, je vais dans des studios de post-prod ciné. Au bout de 2 ans, je vois que c'est pas ce que je veux faire. Je reviens, je dis, peut-être que je suis tellement touche à tout que je dois être producteur. Je fais une école de commerce en devenant. Je fais des ellipses, hein, ça va être. Je fais une école de commerce, master de production audiovisuelle pour être producteur. J'arrive dans ce stage chez un producteur qui me dit, tu connais tout sauf la chose essentielle, l'écriture. Je vais te faire bosser l'écriture pour apprendre, pour choisir les scénarios à produire. Deuxième révélation, je dis, ah putain, c'est génial l'écriture, en m'affarcissant des bouquins d'écriture. Et je dis, c'est ça que je veux faire, je vais écrire. J'ai écrit un court-métrage, ce producteur devient
mon
producteur.
Tu connais tout sauf la plomberie.
Ce producteur, je quitte
là, on est en 1982, hein. On va avancer petit à petit.
On est en 2005. Okay. Attendez, et le bac, c'était 98. Hein.
Ok, ouais, pardon.
Et donc, le producteur me dit, ce producteur chez qui je suis en stage devient mon producteur pour mon court-métrage.
Appelons-le Philippe, voilà. Pour qu'on puisse bien quand même. Ouais.
Non, c'est Eddie Charby que j'adore. Je te fais un bisou, Eddie. Et donc,
sur Skyrock, le mec.
Il lance des casse d'Eddie.
Mais je sais pas diriger des comédiens. Donc, je fais un stage de direction d'acteur qui est nul à chier. La formation est très nulle, donc je dirais pas qui c'est, bon. Mais c'était nul. Et je me dis, pour apprendre à diriger des comédiens, faut peut-être que je joue la comédie pour voir ce que ça fait. Donc, je m'intègre dans un cours amateur de théâtre.
Okay.
Et en fait, ça devient la révélation.
T'as des révélations tout le temps.
Mais non, ta vie.
Non, mais c'est cool.
Non, mais je vais finir. Ouais, parce que, en fait, c'est des révélations.
Non, mais c'était pas chargé d'ironie.
Ouais. Parallèlement à ça,
quoi, en fait, à chaque fois que tu ouvres un truc, ouais. Ah, mais en fait, non, ça c'est vachement bien. Ouais. Et à chaque fois que tu ouvres un truc.
Et parallèlement à tout ça, je fais de la radio tout le temps. En fait, la radio, je m'arrête jamais. Je suis intermittent du spectacle, je fais d'autres choses, mais je continue la radio, je fais 10 ans à RFI, puis depuis 2009, je suis à France Inter. Et je mène tous ces trucs-là parallèlement. Et du coup, au bout d'un an d'amateur, je fais un stage au studio Pygmalion, qui est une formation professionnelle. Et donc là, je m'engage complètement, où je fais deux ans de formation totale à fond, où je m'en consacre à fond à ça, au jeu, à la comédie. Et en fait, le truc, c'est que pendant 15-20 ans, j'ai tourné autour du métier artistique, par la technique, tu vois, pour revenir au truc de réalisateur technique, machin, l'école, ça. Et il m'a fallu tout ce temps-là, ces différentes révélations, pour me dire, ok, je vais être sur le devant de la scène, soit comme réalisateur de film ou comédien, mais en tout cas, je ne veux plus faire la périphérie, je ne veux plus servir les autres par la technique, par tout ça. Mais il m'a fallu tout ce cheminement-là pour faire le tour, pour m'autoriser, comme toi, Juliette, tu vois, à me dire, je suis là. Voilà. Et c'est bon, ça a été court.
Ouais. Mais en fait, donc, au départ, je disais... À la base, t'as un truc plus technique et tu t'es orienté vers l'artistique.
Ouais.
Tu m'as dit non, mais en fait, oui.
Oui, mais parce qu'en fait, si vraiment...
Non, mais c'est juste...
Non, mais...
En fait, il commence toutes ses phrases par un non.
Tu seras un mauvais psy, je te le dirai. Un mauvais psy.
Mais non, mais la technique, c'est une façon détournée d'y aller.
Oui,
je la connais
sûr,
maintenant.
Bien sûr, mais c'était ça, moi, qui m'intéressait.
Mais ça m'a toujours fait chier.
Il y a vraiment une ambiance de merde dans ce podcast.
Non, mais ça m'a fait chier. La technique m'a toujours fait chier parce que la technique... Moi, je ne conçois la technique que pour servir quelque chose d'artistique. Moi, j'apprends des trucs, je suis capable d'apprendre Photoshop dans le week-end si j'ai besoin de faire une affiche, tu vois. Mais je ne vais pas me dire, tiens, je vais apprendre Photoshop. Ah, pardon, Juliette.
Non, pas pardon. Mais c'est parce que ce que tu as dit, en fait, ça a touché, ça touche une chose précise. Et ça fait plusieurs fois que tu emploies le mot artistique pour l'opposer typiquement là à celui de technique.
Et ouais.
Moi, c'est là.
C'est moi le prime qui fait ça. Mais
ouais, et voilà.
Ouais, j'étais là, temps. C'est vrai que Razi,
et moi,
c'était pas tant pour les opposer, mais c'était pour
non,
le
mais c'est
passage.
Pas ça. J'entends bien. Non, mais je.
Moi, je pense que vous êtes tous des cons. Hein. Ouais. Bon, enfin, je préfère quand même préciser ça au début.
C'est vrai qu'il y a une ambiance.
Mais le truc de artistique, moi, voilà, c'est là où j'ai eu un problème depuis le premier jour au cours Florent. C'est quand j'ai entendu le prof, ou je sais pas qui d'autre. À mon avis, c'était pas le prof, c'était d'autres élèves, parler d'eux comme d'artistes ou de futurs artistes. Et que moi, à l'intérieur de moi, je me disais, ah non, mais c'est mort. c'est mort, ouais. ça va pas le faire. En gros, artiste, c'est Cézanne et Marcel Proust et basta. Enfin, voilà, y a...
Par artistique, on voulait plus dire créatif.
J'entends bien.
Enfin, là où tu dois apporter un peu de toi dans quelque chose.
Ah, bah voilà.
Tu vois, à la différence d'un truc qui est un peu plus technique, où on te demande mais un point d'entrée, un point de sortie, par exemple.
Pour le montage
pour
radio.
Pour le montage radio ou machin, où tu n'apportes pas nécessairement quelque chose. Après, si tu mets une petite musique...
Tu mets le point d'entrée, le point de sortie.
Oui,
tu peux le mettre.
Mais en fait, c'était cette opposition-là, c'était pas tant sur l'aspect artiste, genre.
Non, mais j'entends bien. Mais pour autant, même maintenant, toutes ces années plus tard, je continue à pas bien
pas te définir en tant qu'artiste. Quoi.
Ah oui, à pas et à pas aussi. Avoir envie et à trouver ça gênant quand
ouais,
je vois
parce
que j'ai des tas de gens qu'on côtoie ouais, qui le disent où je ressens de la gêne pour eux à ce moment-là.
Bah, dès que quelqu'un se dit moi en tant qu'artiste,
voilà.
Moi j'ai envie
la phrase moi en tant qu'artiste, moi je me vomis dans la bouche instantanément et ça me fait j'arrive plus à prendre au sérieux la personne. Et je pense que c'est un truc interne qui démarre avec justement le moment où tu t'accordes ou pas le droit de pas faire ce qui a été exactement prévu, ce que tu as le droit de faire, ce que tu es autorisé à faire. Et que si jamais tu le dis à voix haute, il y a forcément quelqu'un qui va arriver instantanément et te faire « Non !»
Mais moi, je pense que tout le monde est artiste.
Voilà.
Par exemple, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, moi aussi, je fais du théâtre, mais bon, moi, je fais du théâtre en amateur. » Mais au bout d'un moment, tu répètes, tu apprends ton texte, tu répètes, il y a une mise en scène, tu vas jouer devant des gens, tu fais du théâtre, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Après, la distinction, c'est pour les impôts, quoi, quasi. Voilà, si tu réussis à en vivre, ou si tu as une ambition là-dedans, bon, oui, mais sinon, moi, je pense qu'on est tous...
C'est ce que tu conseilles souvent aux gens qui te disent « J'aimerais bien écrire un livre. »
Écris un livre, quoi.
Écris-le.
Ouais, écris-le.
Mais alors, comment on se lance ?
Mets des mots les uns à la suite des autres.
Oui, mais comment on se lance justement c'est toi, par exemple
26 lettres.
Ton premier spectacle, bon, le titre était raté.
J'ai
mais le spectacle, visiblement, était réussi parce qu'il a quand même. Il t'a permis ensuite d'intégrer France Inter, donc il t'a fait connaître.
Ouais.
Comment tu t'es passé du cours Florent, élève, machin, ouais. Tu payes 600 000 balles par an, tout ça, à. J'ai écrit mon premier spectacle.
Ben encore une fois, alors là c'est une copine qui m'a dit, on avait été voir, on était, je me rappelle, à Chalon dans la rue.
Ça fait beaucoup de femmes quand même. Hein.
Ah ouais, Chalon dans la rue, super festival.
Super festival de théâtre, donc on jouait avec une troupe de potes, donc une pièce quoi. Et puis on a été voir un mec qui faisait du clown, un mec drôle.
Thomas
VDB. Non, c'était pas Thomas VDB, mais c'était un peu le même genre quoi. Et à la fin, donc on se marre et tout, je dis ah, c'est génial. Et ma pote, elle me dit, mais toi tu serais capable de faire ça, pourquoi tu fais pas ça? Et je dis, ouais, mais faudrait écrire et tout. Ben dis, écris des sketchs et puis je sais pas, démerde-toi quoi. Et pareil, ça a allumé une petite lumière dans ma tête. Je me suis dit, ah bah ouais, finalement, je fais rire les gens.
Et comment tu t'es lancé dans l'écriture
que, mais parce que ça, c'est une autorisation, en fait. C'est ça, quand je parle d'autorisation, ouais. Ça, c'est une autorisation. Ce que te dit ta
extérieur.
Mère, c'est... Oui, mais il n'y a pas d'êtres humains qui n'ont pas besoin qu'il y ait quelqu'un d'autre.
Ouais, c'est
quelqu'un dément, si possible.
Oui, bien sûr.
Et qui te... la personne qui le fait ne s'en rend pas compte, mais elle te donne cette putain d'autorisation qui, sinon, tous les gens, ils restent, on se dit, avec leur rêve...
Mais moi, j'avais
même pas déçu puisqu'ils ont même pas osé les formuler.
Hein, c'était pas un rêve quoi.
Mais c'est pas un rêve, mais c'est un truc interne.
En fait, ça a fait écho en toi, comme quand tu lis un truc qui te marque. Tu vois, là, je me suis dit, ah bah ouais. Et allons-y quoi. Puis après, alors comment techniquement
Techniquement, ouais. Comment tu t'es lancé? Tu t'es pris tu t'es dit, je vais traiter telle thématique qui me fait rire? Est-ce que t'as testé des vannes?
Ouais,
il y avait pas énormément de comedy club à l'époque.
Si, pas mal quand même. Ouais, parce que ça s'appelait pas comedy club.
Oui,
ça s'appelait des scènes ouvertes. Ouais. Maintenant, ça s'appelle comedy club. Mais il y en a toujours beaucoup dans Paris où tu peux vraiment arriver avec 10 minutes.
D'accord.
Et puis, bah, vas-y quoi. Puis voilà, les gens.
Toi, tu t'es lancé comme ça?
Ouais.
D'accord.
Je fais énormément de scènes ouvertes. Et comme je venais du théâtre, je pensais que le milieu du one man allait être vraiment très, très concurrentiel, genre individualiste, à regarder les autres qui se plantent, etc., derrière le rideau. Et j'ai pas du tout, en fait. Vraiment, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti.
Ah bon ?
Il y a au contraire pas mal d'entraide. C'est peut-être un peu moins vrai maintenant, parce qu'il y a les stand-uppers qui sont vraiment sur le même style. Mais quand moi, j'ai débarqué avec mes costumes, alors qu'à l'époque, c'était vraiment les débuts du stand-up à l'américaine et tout. Moi, ils m'ont vu débarquer avec une valise déjà dans les coulisses des salles ouvertes. C'est que ce débile, quoi.
Et des costumes.
Et des costumes. Donc, c'était un sujet de vanne récurrent. Bah, c'est Meurice, c'est
ça. Ça l'est toujours, hein.
Ça l'est toujours. Mais d'ailleurs, quand je vois maintenant mes potes qui font des sketchs, Pierre-Emmanuel Barré qui met des perruques, je dis donc, j'avais 20 ans d'avance ou pas ?
Copie comique.
Et les cacous, le retour. Tu vois ? Mais moi, j'adore. Hein. Je venais du théâtre, donc quand tu fais du théâtre, le costume.
C'est marrant parce qu'on t'imagine pas trop en costume, quoi. En réalité.
Ouais, mais ça fait toujours marrer, une perruque, une cape.
Bah ouais,
je sûr. Faisais tout un sketch avec un costume de panda.
Finalement, les donc, costumes d'animaux, même
on
à la
s'en
radio.
Fout, c'est marrant. Tu vois, puis t'arrivais sur scène, bah, si les gens se marraient, après, t'es validé en tant qu'humoriste par les autres. Et puis, il y avait pas mal d'entraide aussi, des plans pour des festivals, etc. J'ai découvert un milieu beaucoup plus sympathique que ce à quoi je m'attendais, quoi.
Donc, toi, tu t'es mis à écrire directement.
Je me suis mis à écrire direct. Et puis,
dès qu'on t'a conseillé de le faire, tu t'es jeté dedans.
Ouais. Mais c'est ça, en fait, c'est ça qui compte. Moi, je suis rentrée au cours Florent parce que j'avais planté mes études. Et j'avais planté ma vie. Enfin, en tout cas, moi, à 20 ans, j'avais l'impression que ma vie était plantée. Ce qui me paraît ridicule à 49.
Ouais,
mais par contre, c'était vraiment sincère. Je pensais que j'avais vraiment planté ma vie, puisque la seule chose pour laquelle j'étais douée, c'était les études, et que je venais de les planter de manière frontale. Mes parents m'avaient coupé les vivres. Enfin bon, la totale, quoi. Et je...
T'as pris des violons, là, dans la...
Non, mais parce que c'est... Parce que c'était le vide, et en même temps, il y avait... Moi, j'avais... En fait, j'avais toutes les possibilités devant moi, mais moi, ce que je voyais, c'était juste un gros vide. Et je couchais avec un type qui était forain à l'époque. Et
qui faisait la voix.
Ça a été mon déclic. Ça a été mon déclic.
Non, pas forain.
Bref.
Vas-y, Juliette, lance-toi.
Et qui était donc pas du tout dans un milieu dit artistique. Ouais. Hein. Et il avait 10 ans de plus que moi. Et au bout d'un moment, à force de me voir tourner en rond, il m'a dit « Bon, ça suffit. T'aimes faire quoi dans la vie ?» Et du tac au tac, j'ai répondu « J'aime les livres et faire la conne. » Et il a pris l'annuaire et il m'a fait « On va trouver un cours de théâtre, bon Dieu.
» Ça, c'est un mec du réel.
Et il a pris... à l'époque, il y avait des annuaires. Hein, je suis vieille. Et un des premiers cours qui est référencé, c'est
Internet.
Le cours Florent. Voilà. Et il m'a inscrite au cours Florent. Et c'est juste parce que... dans ma tête, ça me paraissait cohérent. Faire la conne et aimer les livres, ça me paraissait... je me disais que... Il avait raison. Donc, il m'a autorisé.
Ouais, c'est intéressant.
C'est
ça.
Lui qui m'a donné le
droit.
Parce que
c'est une personne. Toi, c'était une personne qui était dans le milieu.
Ouais,
qui t'a autorisé.
Une copine de théâtre. Enfin, qui était dans la troupe de théâtre.
Et toi, c'est une personne qui est pas du tout dans le milieu.
Non, mais moi, j'avais jamais fait le lien. J'avais jamais dit dans la même phrase. J'avais jamais dit à voix haute ce que j'aime le plus au monde, c'est faire la conne et les livres. Et il me l'a fait dire parce que je l'aimais.
En fait, finalement, c'est
et puis
ce
parce
que
j'étais énervée. Et oui, et en fait, il a dit actrice. Mais s'il avait dit plombier, non, mais on ne sait pas. Ou s'il avait dit, je sais pas, ça va pas ensemble. T'as pas
meurs,
dit
meurs, le suicide.
Voilà. Tiens, j'ai
des fois, les gars du réel, ils parlent comme ça. Hein.
Ouais. Même, il avait une âme d'artiste, il a fait le lien. C'est ça aussi.
Mais c'est ça.
L'artiste, c'est faire le lien de deux concepts apparemment éloignés et de trouver le lien entre les deux.
Ouais.
Mais c'est marrant ce que tu dis parce que souvent, quand on parle d'artiste, alors pas le truc pompeux d'artiste, moi, je mets artiste dans tout ce qui est créatif, quoi, en fait.
Bah oui.
Et souvent, on a une vision artistique, enfin, le commun des mortels a une vision artistique de par les médias. Avec ce truc de produit fini, ou les paillettes, ou quelque chose de très abouti, ou d'inspiré, ou de... Mais en fait, et c'est ça que j'adore faire, moi, en tant qu'artiste, c'est ce moment-là, en fait, de hyper-réalité, c'est-à-dire le matin, tu te lèves, t'écris trois mots sur un bout de cahier, le moment où, en fait, tu passes à l'action, où c'est du concret. C'est-à-dire, c'est pas un truc l'artistique, le monde artistique, c'est pas un truc joli en l'air, comme ça qu'on voit. C'est un truc, en fait, finalement, presque artisanal.
Bah, tu joues au Lego.
Que ce soit dans le... Hein ?
Tu joues au Lego, quoi.
Non, mais c'est vrai, il faut quand même qu'il y a le moment, effectivement, où tu te heurtes, enfin, où il faut te heurter à la réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce que...
Toi, technique... par exemple, Juliette, comment vous êtes mise à écrire Arrête de pleurer, Pénélope, ça s'est passé comment ?
On n'arrivait pas à s'y mettre. Parce qu'on savait qu'on voulait écrire une... Puisqu'il n'y avait pas de pièce écrite pour trois filles, une comédie pour trois filles. Ça n'existait pas. On a fait tout le répertoire.
C'était en sortant des cours de théâtre, hein, toi.
En sortant des cours de théâtre, au début, on devait jouer avec un mec. On avait trouvé une pièce de théâtre, une comédie pour trois filles et un mec. Au bout d'un mois de répète, le mec, il nous a dit « Non, mais ça aboutira jamais à rien. Vous êtes nuls, salut. »
Putain, c'est le quatrième Beatles.
Donc, exactement.
C'est ça qui a
parlé. Nous, on l'a super mal vécu. Mais en fait, ça nous a vraiment mis une pile au cul. Et
bah,
donc
si
là...
Si vous n'auriez rien fait, quoi.
Si ça se trouve, ouais.
Peut-être.
On ne sait pas. Et donc, ça nous a un peu humiliés. Enfin, on s'est senti humiliés, en tout cas. Et donc, au bout d'un moment, comme on trouvait avait pas de comédie, on s'est dit on va l'écrire. Mais après, il y a le moment. Moi, je dis aux filles.
Allez, on va l'écrire et le moment où il voilà, faut l'écrire.
On
n'y
va
pas Google Doc.
Donc, on se retrouve. On se retrouve.
Aujourd'hui, on dit enfin Google Doc.
Voilà, on se retrouve autour d'une table.
On le nomme. Non, mais j'invite qui ? Tiens, j'invite telle personne.
C'est déjà
quand même. Moi, j'avais pas d'ordinateur à l'époque. Je vous parle de 1997. Donc, j'avais pas d'ordi. J'avais même pas encore de téléphone portable. Voilà, c'était ça le deal. Et on se retrouve, j'habitais un studio et avec mes deux copines et chacune on a un cahier, un crayon et on se regarde un peu en chien de faïence. Et là il y en a une des trois qui part à la salle de bain, dans ma salle de bain, et qui part et qui revient en disant je vais pisser. Et elle revient avec la gueule mais genre vénère de ouf et elle tenait à la main ma machine à peser. On pèse personne et elle nous regarde et elle me regarde méchamment en me disant c'est quoi cette machine qui marche pas, merde. Et on a écrit, Christy et moi, on a explosé de rire et on s'est dit putain, on a un personnage, on a une phrase, on a une réplique. Et c'est devenu, et cette réplique, la pièce elle a changé 200 000 fois de forme. Par contre cette réplique dont je me souviens, là je suis en gabarit double avion, je m'en souviens pas, cette réplique c'est Corinne qui l'a joué et c'était un des trucs qui marchait le mieux de la pièce.
C'est un élément fondateur du personnage et de la pièce.
Et c'est ça, en fait, l'écriture. Enfin, c'est le moment où ton cerveau, il fait les bons clics. Mmh. En tout cas, en écriture, moi, c'est ce que j'ai toujours ressenti. C'est le moment où effectivement, tu fais « Ah ouais, alors elle s'appellerait Léonie, alors elle serait attachée de presse. » Mais ouais, ça te dit rien, ouais, ça t'évoque rien. Ouais. Sauf que quand t'as vu Corinne sortir de la salle de bain, vénère comme l'enfer avec le bon pèse personne, en m'accusant, en gros, de l'avoir trafiquée pour qu'elle ait l'air lourde, et ben on avait... Il y avait une énergie... Une colère, un truc où il n'y a pas de second degré. Et tout à coup, c'était. Une vérité.
Et puis des choses qu'il a dépassé le personnage, ouais. Et que tu voyais au-delà du personnage et de la situation, un univers se créer.
Oui, c'est ça. Et ça faisait comme plein de petits nuages autour d'elle. Et tout à coup, tout était lisible. Il est arrivé ce genre d'accident pour les trois personnages.
Et toi, Guillaume, du coup, en faisant. Après ton spectacle, annulé, mort de rire ensuite.
Tout le monde y passe.
Tout le monde y passe. Tu as été recruté sur France Inter directement, d'ailleurs, en chronique.
Ouais, c'est de 2012. Donc,
Et tu n'as pas fait de chronique avant ?
Non, pas du tout.
Et comment tu as appréhendé cet exercice de te dire, en fait, je vais écrire. C'était une chronique hebdomadaire, j'imagine ou...
Ouais, ça a commencé par une hebdomadaire. Après, ça a été hebdomadaire, je pense.
D'accord. Comment tu t'es dit, tiens, je vais passer d'un spectacle, de l'écriture d'un spectacle, à l'écriture d'une chronique qui n'est pas le même exercice ?
Comme d'habitude dans ma vie, une espèce de concours de circonstances, il y a une nouvelle émission qui se montait à France Inter, donc c'était le 11h midi et demi, le Nagui de l'époque. Frédéric Lopez, d'ailleurs l'émission s'appelait On va tous y passer, dis donc.
Il a copié
le plagiat, ouais. Et il cherchait des nouvelles voix et il cherchait des gens de scène. Parce que c'était l'émission était en public.
D'accord, oui.
Au studio 106. Donc, ils aimaient bien des gens qui étaient
capables de réagir avec
le public. Ouais. Okay. Et moi, j'avais ça. Et en plus, à l'époque, j'avais commencé un blog. Et il y avait des blogs à l'époque.
Donc, il y avait Internet.
Qui est toujours en ligne, d'ailleurs. Il est toujours en ligne, mon blog.
Ah, c'est vrai ? Sur MySpace, non ?
WordPress. Ouais, donc j'écrivais une fois par semaine une chronique sur l'actu, pas forcément drôle.
Ah oui, donc t'écrivais
mais
déjà...
avec un peu de trucs. Enfin, tu vois, j'aimais bien. Ouais, j'ai toujours bien aimé écrire, moi, de toute façon. Et donc, qui était lu par 50 personnes vraiment les jours de buzz, quoi. Donc, en fait, j'avais un peu le profil. Et on était au Festival d'Avignon, donc festival de théâtre. On était, je me souviens, avec Alex Vizorek donc, et Pierre-Emmanuel Barré. Et ils nous appellent en nous disant, il y a un casting, donc une audition, on va faire passer tous les humoristes, si vous êtes intéressés, c'est en juillet, quoi. Et nous, on dit, mais nous, on est au Festival d'Avignon, donc il faut qu'on fasse l'aller-retour dans la journée, c'est quand même galère et tout. Donc on commence par
dire non.
Traîner les pieds, quoi. En fait, ils font chier France Inter, quoi. Et on décide d'y aller tous les trois, et on leur dit, on veut passer en premier, on prend le train super tôt le matin, on passe à genre, je sais plus, 10h du mat, peut-être, et après, on se casse, et... Et voilà. Et le Festival d'Avignon, c'est un truc pour ceux qui l'ont jamais fait en tant qu'artiste. Non, mais même en tant que spectateur, c'est crevant.
On essaye de faire un autre mot à la place d'artiste à partir de maintenant.
Non, mais
on
en général,
pain au chocolat.
Ouais, en tant que pain au chocolat.
Juste pour voir ce que ça donne.
Et même en tant qu'amateur de pain au chocolat ou professionnel du pain au chocolat, c'est un truc hyper crevant. Tu joues tous les jours, souvent tu fais la fête parce que t'as tout le métier qui est là. Voilà.
Et tu tractes
à l'époque, donc t'es obligé de distribuer des petits tracts dans la rue aux gens. T'es rincé, quoi. Et nous, on est arrivés.
Ça justifie rien, la fête, non, mais tout ça, parce que
tu peux ne pas
faire
la fête. Tu ne peux pas, tu ne peux pas.
Tu ne peux pas, parce que tu passes à côté du truc.
Et puis surtout, cet endroit, de toute façon, tu ne vas pas réussir à dormir.
Non.
Tu ne peux pas justifier en disant non, mais c'est un truc hyper crevant, on fait la fête, on boit.
Les auditeurs, Ramzy est très chiant.
Non, mais tu sais, parce que Ramzy, ça, c'est ton côté pas trop pain au chocolat, en fait.
Ouais, voilà. Mais ça a une importance dans la suite parce qu'on est arrivé à l'audition, mais vraiment hyper détendu, crevé, un peu en mode petit con, rien à foutre quoi.
Vous
on avait
écrit
un papier quand même de 3 minutes, je sais pas.
Mais chacun le vôtre.
Chacun de son côté, on avait fini d'écrire dans le train, etc. Quoi. C'était vraiment à l'arrache. Et quand on est arrivé, on a pris un peu conscience de l'enjeu en voyant vraiment tous les potes humoristes avec leurs petites feuilles un peu tremblotantes. Ah ouais. Ils avaient mis 15 jours à écrire en pesant chaque mot, tu vois. C'était un peu
un truc important audition, pour eux.
Et puis nous, on est vraiment arrivés comme des connards, quoi.
T'étais avec qui, tu dis?
Pierre-Emmanuel, Alex, et il y avait un quatrième autour de la table. Ils faisaient des sortes de bases, enfin, voilà, des missions zéro. L'invité, la fausse invitée, était Sophia Arabe. Je me souviens à l'époque, pour la même. Et on est arrivé un peu... Et on a mis le bordel, quoi. Parce que, avec Pierre-Emmanuel, souvent.
Et là, si l'émission a été bien produite, le podcast, on mettrait Comme des connards de Michael Youn.
Comme on n'a pas les droits.
Eh ben, on la mettra là. Et je vais la chanter. 3, 4.
Mais je crois que même tu n'as pas le droit de la chanter si tu n'as
pas
les droits.
Oh, maman, dis-moi pourquoi. Oh, oui, pourquoi. Je suis né.
Non, il faut synchroniser avec la maison
de Dieu. Justement, si on a un procès, ça ferait de la pub. Et voilà. Et ce qui leur a plu, je pense, et je pense qu'ils me l'ont confirmé après, au-delà des textes qu'on a écrits, c'était. La complicité qu'on avait déjà et l'énergie qu'on avait amenée. Et voilà, on a vraiment, j'ai la sensation, alors peut-être que maintenant c'est un peu extrapolé dans ma tête, mais j'ai vraiment la sensation d'un hold-up, quoi.
Ouais,
j'ai vraiment la sensation
de mecs
qui
déboulent
à 10h du
mat, c'est sûr.
Qui font tire sur mon doigt, prout, allez, ciao.
Alors que le mec avait mis 3 semaines à écrire sa chronique.
Ouais, bienvenue. Et 10 minutes après, je suis encore là, tu vois.
Oui, mais en même temps, pour le coup, c'est un bon conseil, c'est-à-dire, on se rend pas compte à quel point les castings en général, c'est l'auberge espagnole.
Donc faut y aller complètement déchiré et avoir fait la fête la veille.
Si ça t'apporte de la légèreté et de l'insouciance, vraiment fais-le. En plus, t'es jeune, tu t'en fous. Donc tu te la colles.
Est-ce que à l'époque,
je pensais pas que ça allait changer ma vie. En fait,
ouais, c'est ça. À l'époque, est-ce qu'il y avait, pas autant d'humoristes sur France Inter, si?
C'était pas non, un truc. Il y en avait moins, je pense. Aujourd'hui,
il y en avait moins.
Il y a toujours eu des humoristes, et notamment en 11h, ça a toujours été la case divertissement avec des humoristes, des chroniqueurs.
Ça a toujours été le truc. Je connais pas, j'ai jamais écouté France Inter. On y travaillait.
Tu sais que tu travailles depuis maintenant plusieurs années.
Hein. Oui, mais sauf que j'écoutais pas en 2012.
Est-ce
qu'il y avait ce truc qui a aujourd'hui, c'est le Graal absolu, comme Canal l'a été un moment.
À l'époque, c'était Canal plutôt, je pense.
Oui,
c'était encore le grand journal.
Chez les jeunes.
Mais il y avait quand même ça un peu... Il y avait des humoristes, Didier Porte, Stéphane Guillon et tout. Il y avait quand même une fame autour de France.
Il y avait Morin déjà aussi.
Et
il y avait Morin aussi, non? Il était pas déjà?
Il y avait Morin, déjà. Donc oui, il y avait déjà ça quand même.
Mais avant, il y avait des proches, tu sais. Tu te souviens?
Eh oui, papy.
Non.
Non, mais surtout, c'est intéressant. Là, c'est un peu particulier comme casting parce que quand même, tu dois préparer quelque chose, un texte et tout. Quand tu prépares un casting de comédien, je pense que...
T'en as fait? T'en as passé?
Ouais, tu voulais une autre anecdote? Vous êtes friand d'anecdotes ou pas?
On aime bien les anecdotes.
J'ai passé un casting.
Les anecdotes de pain au chocolat, on adore ça.
J'ai passé un casting pour jouer le fils du général de Gaulle dans un téléfilm sur France 2.
Ah ouais, alors, ça a été bien.
Et bah, figurez-vous, donc physique, mon pote Luc Martin, toujours le même, j'en ai quatre. Il m'avait dit, non mais t'emmerde pas, bosse pas. Ils vont te voir arriver dans la pièce, c'est toi.
Ah oui, oui.
Si tu veux faire, t'as la gueule, t'es grand.
C'était le même qui avait bien aimé le premier titre, c'est ça.
C'est le même, le pif.
Ouais, le sud.
Tu ne bosses pas. Et tu les insultes, tu ouvres la porte, tu dis, connard.
Et tu pètes.
C'est le conseil qu'on peut donner.
Mais tout de suite, hein.
Et bon, non, j'avais quand même pris le texte et tout, mais j'étais vraiment sûr de moi, quoi. Tu sais, limite, je suis arrivé en faisant, du coup, où est-ce que je chine, quoi? Parce qu'il regardait ma tête, en fait. Mais vraiment, pas
du tout.
Il est
venu avec un stylo plume, comme ça. C'est vrai. Alors
toi, et ouais, j'ai raté, quoi. Non, vraiment, ils m'ont pas du tout pris. Et après, j'ai regardé qui jouait le fils du général de Gaulle, il ressemblait pas du tout. Enfin, honteux, quoi.
Mais il jouait bien en comédie.
Mais en revanche,
il jouait bien. Alors, si maintenant, il faut bien jouer pour avoir le rôle, faut prendre quoi. Et ouais, j'avais passé aussi deuxième film d'Isabelle Mergault, j'avais passé un casting. Alors ça, c'est parce qu'à l'époque, avec des potes, on était un peu les premiers youtubeurs. On mettait des vidéos sur Dailymotion, on faisait des parodies. Ça, je pense que si ça ressort un jour, je les ai enlevés d'Internet.
Ah mince.
Je pense que si ça ressort un jour, ça peut vraiment être
archive.net, ça existe.
Ouais, ça s'appelle Canal Jean-Mi. Ouais, et on vraiment, c'était vraiment avant, bah c'était avant YouTube, quoi. C'est pas compliqué. Donc on mettait sur Dailymotion, c'était 100 mégas. On faisait des montages sur Adobe Premiere. Enfin, c'est vraiment. C'est pour ça que c'est important. Comme on est un podcast sur la fabrique et tout, je pense que c'est important de faire des trucs, quoi.
Ouais. Ah putain, puis, moi voilà, j'ai on avait
ouais, de se viander. Et
ouais.
Oui.
Puis il y aura toujours des gens qui trouveront ça génial.
Non.
De toute façon. Non. Il y aura toujours des gens qui diront que c'est de la merde.
Non, mais toi, t'es content de l'avoir fait en tout cas. Enfin, ouais. Ça te fait toujours.
C'est marrant à raconter après aux copains.
Non, il n'y a pas toujours des gens qui trouvent ça génial. Non, c'est. Tu te souviens du. T'as peut-être vu le striptease sur le gars qui a fait On ne demande qu'à en rire.
Ouais. Mais je suis sûr que dans leur entourage, il y a des gens qui disent ah, vous êtes des génies, c'est incroyable ce que vous
ouais,
faites.
Ouais, mais bon. C'est dur à encaisser quand même tout ce qu'il encaisse.
C'est un bon exemple, parce que moi j'ai refusé de le faire.
Ah, toi t'as refusé ?
Ouais, mais bon, ouais. Ça viendra peut-être après, dans la chronologie. Mais je déteste la compétition. Alors la compétition dans le domaine artistique, c'est...
Mais, ouais, mais
moi,
ouais, mais t'as décrit une scène de compète quand tu arrives à France Inter.
Le casting,
pour le casting, c'est de la compète, en fait.
Non, non, parce qu'il n'y avait pas de notes. Moi, j'étais en concurrence avec personne.
Il
n'y
a pas de notes. Il t'es pris ou t'es pas pris, quoi. C'est comme un concours, t'es pris ou t'es pas pris.
Non, moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord.
Tu n'es pas dans la même position.
Pour avoir fait passer de moi des castings, pour en nous remplacer justement dans Arrête de pleurer Pénélope, c'est un truc que j'ai compris pile et ça m'a vachement aidé après moi pour passer des castings et pour être légère, qui est à mon avis la seule chose qui vaille
ah ouais,
pour ce genre de truc.
Moi c'est l'enfer. Pour
c'est
moi.
En faisant passer des castings, je me suis rendu compte que j'avais choisi, que je choisissais à chaque fois des comédiennes qui n'étaient pas forcément la meilleure, mais celle qui fitait le plus selon moi en termes d'énergie avec les autres et avec le personnage. Il y avait des filles à chaque fois qui étaient meilleures et je me souviens de m'en boucaner avec une technique,
tu passes bien ta voix,
beaucoup plus de
le
technique
parfait,
voilà.
Au final,
une fille qui a compris, enfin qui a une aisance intellectuelle et une aisance de jeu, une technique de jeu qui fait que c'est imparable ce qu'elle a fait, il n'y a rien à dire, c'est drôle, c'est bien foutu, c'est efficace et tout. Ouais. En revanche, moi j'avais vu quelqu'un juste avant ou après qui dégageait une énergie beaucoup plus monstrueuse, une vibration me disais cette vibration là moi je la veux. Ouais. Moi, je veux voir ça sur scène.
Oui, mais alors, elle m'excite plus que... de meilleure, ça. Pour moi, ça, elle est meilleure là que quelqu'un qui est très technique, qui est très bonne.
Oui, bon, ouais, c'est une bagarre sémantique. Mais,
oui, mais après, mais ça veut dire... Oui, mais ça veut dire après... Moi, je savais que j'allais jouer avec cette fille. Je savais que j'allais la mettre en scène. Et je pensais que j'aurais plus de plaisir et que le public aurait plus de plaisir une fois qu'elle aurait compris les codes. Et voilà, ça, c'était juste du travail. Et qu'en revanche, ce qu'elle apportait, elle, sa vibration, c'était brut, pas du travail. C'était, c'était ça qu'elle était. Et ça, moi, me plaisait de ouf.
Mais c'est pour ça que si vous ratez un casting, c'est pas que vous êtes nul.
Non,
que
voilà.
Vous correspondez pas à l'attente que. Ou alors à ce moment-là, quoi, quand vous avez passé ce truc-là, voilà, ça y a un truc qui s'est pas fait entre la personne qui fait passer le casting et vous. Enfin, moi, je dis toujours ça, quoi. Ça remet pas en cause. C'est pas, l'enjeu, c'est pas bon ou mauvais.
Voilà, et donc c'est pas une compétition. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Guillaume. Ça n'est, ce qu'il a fait là, France Inter, pour moi, ça n'est pas une compétition. C'est vraiment quelqu'un qui vient faire un casting, c'est un marché. C'est quelqu'un qui vient sur un marché et qui cherche.
Je pense que c'est une bagarre sémantique encore, parce que c'est un peu une compétition quand même.
Non, t'es pas en compétition.
Je pense que celui qui n'a pas été pris, qui avait bossé sa chronique pendant 3 semaines, lui, il l'a vécu comme une compétition.
C'est pour ça qu'il a pas eu.
C'est pas très grave. Ma question au
départ, on ne prendra pas comme une compétition, mais il s'amusera.
Donc la question au départ, c'était sur l'écriture de chroniques. Donc, et toi, François, cette année, tu écris des chroniques. Une chronique quotidienne. Tu coécris
une chronique.
Tu coécris un sketch.
Un sketch.
Voilà, un sketch. Donc, c'est 20 secondes avant l'antenne, c'est un sketch dans l'émission.
Un sketch
d'une minute. Parfois, sur France Inter, au tout début de C'était encore nous.
Ouais.
Comment toi, tu as appréhendé ce truc-là ? Parce que tu as déjà écrit et tu as déjà écrit des fausses pubs pour France Inter. Mais là, tu dois livrer tous les jours un texte. Comment tu l'as appréhendé, toi, ce truc-là ?
En fait, je ne l'ai pas vraiment appréhendé parce que je ne m'y attendais pas du tout. Parce qu'en fait, Charline, elle m'a annoncé ça un peu comme si, oh tiens, j'ai un truc, une idée, j'ai un début d'idée, un truc genre, on fait 20 secondes avant l'antenne. D'accord, bon.
Okay. T'as annoncé ça quand ?
Mais je sais pas, je crois qu'elle avait à moitié dit un truc en fin d'année, ou peut-être pendant les vacances, et encore, je sais plus trop.
parce qu'elle réfléchissait un peu à la nouvelle formule, mais tant que la saison dernière n'était pas finie, c'était difficile. Ça avait été une grosse saison avec les présidentielles.
Charline Vanhoenacker. Hein,
Charline Vanhoenacker, oui. Ouais. Grosse saison avec les présidentielles. Avec, donc tout le monde est arrivé un peu, hein, tout le monde le sait, ici, autour de cette table, un peu rincé à la fin de l'année. Ouais, un peu, hein. Oui. Et en fait, donc je sais pas, c'est à la rentrée. D'accord. Elle me dit oui, je pense à un truc, mais jamais sans vraiment me dire ok, le conducteur c'est ça. On va donc faire 20 secondes tous les deux, machin, tata. Du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de me dire bon. Et puis après, au bout d'un moment, je dis,
au moins t'as pas eu de stress pendant l'été à dire je vais.
Non, mais ouais. Et puis en plus, je m'attendais pas du tout parce que moi j'avais proposé de faire une émission et donc on a fait un pilote avec moi en co-animation, tout ça. On avait débriefé parce que je m'étais voilà, c'est pas un secret, je peux le dire, je m'étais proposé comme Alex et Guillaume venaient moins cette année, que peut-être il fallait recomposer un duo homme-femme. Je m'étais proposé un peu pour le délire et puis par envie aussi personnelle pour me tester, pour et puis j'y croyais en le faisant, voilà. Et donc après on l'avait débriefé et puis voilà, ça allait pas le faire parce que pour plein de raisons extérieures aussi, et certainement par rapport au fait que c'était moi, que j'étais réalisateur, c'était aussi compliqué de mélanger. On coupera si tu veux couper des trucs, hein, t'inquiète pas toi, putain. on n'est pas en direct. Mais en fait, quand elle me propose ça, j'ai pas trop le temps d'y réfléchir et oh c'est beau, les cloches. Et puis en fait, donc ça s'est fait un peu naturellement, et je l'ai laissé démarrer en fait l'écriture parce que c'était son truc.
Comment vous procédez sur
Mal.
L'écriture de ce sketch?
Salope. Non, en fait.
Mais tu vois, c'est comme ça qu'on répond vite. Tu vois, un mot. Mal.
Moi, j'ai rien à dire, François.
Non, mais vous me dites si vous voulez que juste trois phrases, vous dites en combien de phrases, je le fais en phrases que vous voulez, putain.
Bon, voilà. Vous êtes des connards.
Pourtant, il a rien à faire 20 secondes avant les.
C'est ça que je
comprends. Ah non, t'as pas compris. Dans ma façon de fabriquer, justement, c'est fais beaucoup, non, beaucoup, beaucoup, alors, et après je réduis.
Okay. Donc là, explique juste comment vous écrivez avec Charlie.
Alors au début, elle écrivait parce que c'était son idée. Je voulais voir un peu. Donc c'était son truc. Donc je savais pas dans quoi elle voulait m'emmener. Donc j'ai laissé
elle
faire.
Elle écrivait la totalité du sketch.
Ouais, ou en d'accord. Tout cas, je mettais une blague, tu vois.
Et toi, ensuite, tu repassais dessus.
Sur la première semaine, oui, je repassais dessus. Voilà. Et après, je me contentais surtout d'écrire, d'interpréter, parce que je me dis, ok, il faut que je trouve aussi un personnage, même si c'était un peu mon personnage que j'ai des fois dans le bureau, un peu con-con.
Personnage. Ah oui.
On a tous hoché la tête.
Oui. Oui, voilà. François, c'est un personnage. Oui, d'accord. Voilà. Oui.
Okay.
On va les reprendre ces séances chez le psy, hein.
Non, moi j'ai fini mon analyse, je suis très bien comme ça. Putain.
Toi et Thomas Croisière, allez, hop, dédoublement de personnalité.
Oh non, je sais très bien. Non, je sais très bien quand je suis qui. Voilà. Ça c'est pas mal, ça. Je sais très bien quand je suis.
Je sais très bien quand je suis qui.
Ah oui, c'est pas mal.
Allez. Faut le mettre dans
un scénario. On sait pas si ça veut dire quelque chose, mais c'est bien.
Mais si, ça veut dire.
Oui, sûrement.
Et donc je me suis concentré sur l'interprétation. Et après, comme la saison a démarré, Charline a aussi son billet à écrire, tout ça. Donc, petit à petit, j'ai, moi, mis des idées pour voir. Donc, j'ai fait une première.
C'est toi qui faisais les premières versions, les V1.
Bah, en tout cas,
petit à petit.
Pas chaque fois. Oui. Mais quand j'avais
commencé à prendre la main dessus.
Je me suis dit, dès le matin, il faut.
À proposer au moins quelque chose.
Voilà, après, dès le matin, je propose quelque chose. Le premier truc que je fais, avant même de réaliser l'émission. Je dis, je cherche.
Jusqu'à 15h à peu près.
je réfléchis à un truc et je fais une première proposition qu'elle prend, donc est valide ou pas, et réécrit. Et en fait, on a jusqu'aux vacances comme ça, on a procédé à peu près de cette façon-là. Sauf quand moi j'étais coincé sur un truc, des fois t'as pas d'idée, des fois elle en a une spécifique, elle avait envie de faire quelque chose ce jour-là. Voilà, je lui laisse complètement le. Tu vois, je me bats pas. Enfin, puis il n'y a pas besoin de se battre. Et en fait, je trouve que. Alors, je touche du bois, c'est du bois.
Oui, je crois. Ouais.
Jusqu'ici, en tout cas, on s'entend super bien parce que. Bon, moi, quand elle me dit non, ça va pas du tout, je m'en fous. Bon, des fois, je peux m'énerver sur un truc, sur une blague.
T'as pas d'appréhension la veille, te dire est-ce que je vais trouver l'idée pour le lendemain? T'as pas ce stress-là?
Je l'ai eu. En fait, non, pas quand. Parce que quand tu écris tous les jours, je préfère moi écrire tous les jours. En fait, t'as pas le temps de réfléchir. Et que quand, par exemple, pour écrire un scénario.
Et
pour
on
moi...
s'en rend bien compte.
J'ai pas voulu le faire.
Bande d'enfoirés. Vous me demandez de raconter des trucs juste pour me vanner, bande d'enfoirés.
Ouais, c'est le dîner de con. Hein,
ouais, ouais. C'est ça. Ah, mais oui. En fait, ça s'appelle pas la fabrique.
C'est vrai, non, c'est vrai qu'on
la
est...
fabrique à con.
C'est vrai. Non, allez. On a... Alors là, vraiment, t'arrêtes, Juliette.
Non, mais en plus, je suis d'accord avec toi. C'est vrai, quand t'écris tous les jours, tu te mets moins la pression. Parce que
alors, non. Justement, ouais. Toi, du coup, tu fais cette année plus que deux chroniques par semaine.
En l'heure.
C'est plus compliqué.
Non, parce que j'ai
faire.
Écrit plein de trucs par ailleurs, donc je continue à être dans la dynamique
d'écriture.
D'accord,
mais le fait de faire, d'en faire que deux, ça change non. Pas le... Pardon, ok. Continue, François, pardon.
Non, t'inquiète. Et donc, moi j'ai eu cette angoisse-là au retour de vacances. Moi je suis un diesel et j'ai toujours... Parce que moi quand je coupe vraiment, ou je fais d'autres trucs perso. Et sur l'écriture par exemple de scénario, j'ai beaucoup plus de mal, alors que je veux faire des films et tout. C'est qu'en fait, il faut se mettre une pression, enfin, il faut se mettre en condition d'écrire tous les jours. Et comme tu n'as pas d'échéance forcément, parce que tu écris un truc pour toi, tu vas essayer de le vendre, machin. Alors que quand, et sur les fausses pubs, j'avais commencé l'été, c'était une fausse pub tous les jours. Et quand je suis passé à une quotidienne au bout de la troisième saison, en saison régulière, c'était beaucoup plus dur d'écrire, je trouvais. Je mettais 3 jours à écrire. Et je commençais
une hebdomadaire, tu veux dire
Une par semaine, j'ai dit. Ouais,
t'as dit une quotidienne.
Oui, une quotidienne. Je faisais une quotidienne l'été et après, je suis passé une hebdomadaire en semaine. Et là, je mettais 3 jours à écrire. Et ça devenait des grosses fausses pubs avec carrément des bandes-annonces de films.
Ouais,
avec des
du coup, tu veux tout mettre.
Ouais,
tout
je veux trop.
Et en fait, c'est contre-productif.
Ouais.
Okay.
Enfin, c'était bien. Non, c'était vachement bien. C'était super. Okay. Mais c'était devenu autre chose.
C'est souvent le problème des premiers spectacles, par exemple. Quand tu commences, tu fais un premier spectacle, bah, tu mets tout dedans, quoi. Sauf si tu le fais à 20 ans, tu mets tout de 0 à 20 ans, quoi. Parce que tu sais pas s'il va y en avoir d'autres.
Ouais, bah ouais.
Et souvent, les défauts des premiers spectacles, c'est ça. Mais en même temps, c'est un défaut.
Et t'as eu du mal à faire ton deuxième spectacle. C'est que demande le peuple.
Pas vraiment.
C'est
ça. Moi, j'écris pas trop dans la douleur, alors.
Ah bah non, ouais, je m'en suis rendu compte.
Ouais.
De toute façon, t'es non, pas tellement pas... dans la douleur en
non,
général.
Mais... Non,
hein.
Alors, je vais expliquer pour les auditeurs. Faut dire que Guillaume écrit souvent dans le bureau qui est bruyant. Ouais. Il arrive à se concentrer dans les pires heures, entre 15h30 et 17h. Il arrive à se concentrer et à écrire sa chronique et le journal de presque 17h17.
Ouais, je suis un peu monotage, donc il peut y avoir un avion qui décolle à côté, je l'entends
voilà,
pas. Ouais.
Il n'y a vraiment aucune douleur. Et même ton spectacle, j'ai l'impression que ton dernier spectacle, je change un peu.
Ouais, ouais.
Mais ton dernier spectacle, j'ai l'impression que tu l'as écrit tard par rapport à... Tu voulais qu'il colle le plus
à l'actu, ouais.
Donc tu t'es mis à l'écrire relativement tard.
Ouais. Bah, après, c'est ce que disait François, là, je suis d'accord avec lui. Pour le coup, quand t'écris, c'est un peu comme un muscle, quoi. Plus t'écris, plus tu chopes des dynamiques, etc. Mmh. Des mécanismes, même. Du coup, faut s'en méfier parce qu'au bout d'un moment, si t'as toujours les mêmes mécanismes, bah, tu deviens vite ringos. Ça peut devenir aussi ton principal défaut, donc... Bon, il y a une petite vigilance à avoir vis-à-vis de soi-même, etc.
On n'est pas là pour parler avec Zizorek. Hein.
Non, mais souvent, par exemple, pareil, quand tu es humoriste à la radio et tout, tu reçois des messages de « Ah ben moi, j'aimerais bien faire ce que tu fais. J'ai écrit quelques textes, dis-moi ce que t'en penses. » Ça, j'en reçois quand même pas mal, quoi. On en reçoit pas mal. Et bon, c'est un peu délicat parce que déjà, moi, je réponds souvent, mon avis ne va pas te servir à grand-chose, quoi. Si je trouve ça drôle, ça ne veut pas dire que tu vas remplir le zénith. Et si je trouve ça pas drôle, ça ne veut rien non plus. Donc, le seul conseil que je peux donner,
ouais, c'est ce que disait Juliette tout à l'heure. C'est le petit encouragement de la personne, d'une personne qui connaît un peu ce métier.
Oui, mais ça ne marche que si c'est...
Que si c'est un proche ? Bah non.
Non, enfin, je retire ce que je viens de dire. C'est
Est-ce que tu as retiré ce que tu n'avais pas dit ?
Ouais, ce que j'allais dire, ce que je me préparais. Non, parce que je me suis souvenu d'un truc que m'avait dit Jean-Pierre Bacri que je ne connaissais pas.
Ah ben, vas-y.
Et de comment il nous avait rendu service et qu'il ne l'a jamais su. Puisque je ne lui ai jamais dit.
Bah dis, c'est quoi
il a dit quoi ? Là, on a envie de savoir.
On avait écrit le premier draft de Arrête de pleurer Pénélope. On l'avait joué nulle part. Enfin bon, puis on était serveuses, quoi. Enfin, et puis on n'était pas de ce milieu, puis on était des provinciales. Et puis, enfin, il n'y avait rien qui allait, quoi. On n'était ni particulièrement jolies, ni particulièrement intelligentes, ni particulièrement drôles.
Ah, mais à l'époque, non.
Non, j'étais vraiment dégueulasse. Maintenant, je suis belle parce que j'ai des rides. Mais avant, j'étais dégueulasse. J'avais des gros seins, bref.
T'as des
gros seins ?
J'avais. Mais non, François, j'en ai jamais eu. Enfin, bref, bon.
Tu vois comme quoi les seins, paf, t'as capté l'attention de
François,
tu peux
pas
lui rendre un truc.
Tu vois ?
Et donc, je suis dans... J'habitais à l'époque à Montparnasse et je suis boulevard du Montparnasse. Et il se trouve que j'ai la première fois qu'on l'a imprimé.
Le texte.
Et je croise Jean-Pierre Bacri et je me dis, punaise, Juliette, T'as le texte sur toi d'un mec qui écrit des comédies. Ouais. Toi, t'as écrit une comédie avec tes potes. Lui, il écrit des comédies avec ses potes. Tu le croises. C'est la première fois que t'as le texte sur toi. Oh putain, je t'ai fait demi-tour. Et là, je suis arrivée, mais rouge comme une tomate. Mais j'ai pas de timidité, moi. Et je lui ai dit bonjour, excusez-moi, pardon de vous déranger. Est-ce que vous voulez bien lire notre pièce? Et il l'a pris avec son air super désagréable, quoi, ouais, de Jean-Pierre Bacri. Et il m'a dit, mais il l'a pris. Et il m'a dit, ouais, je vais voir là, j'ai pas trop le temps, je suis en tournage, mais oui, je le ferai. Et moi, je suis partie comme ça, claquant des... Vraiment, ça y est, je me disais, c'est bon, demain, Oscar. Et puis, il s'est rien passé pendant des semaines et des semaines. Et à l'époque, évidemment, pas de téléphone, j'avais juste un téléphone chez moi, fixe.
Tu pleurais.
Et avec un répondeur.
Ça y est, ça s'appelait Arrête de pleurer, Pénélope.
Voilà. Et au bout d'un moment, quand j'ai eu pensé qu'il n'est jamais plus, il allait appeler, je suis rentrée chez moi un jour, et il y avait un message sur mon répondeur disant « J'ai lu votre pièce, bon, c'est pas abouti, ça manque de tension, mais il y a un truc de sûr, c'est que vous avez un vrai sens du dialogue. »
Ah.
Putain, on s'est accroché à ce truc, mais je peux pas te dire quoi.
Bah oui, bien sûr.
Et par contre, on n'a pas oublié ce qu'il avait dit tout le reste. Hein,
surtout de la part de Bacri, qui a un sens du dialogue qui est
voilà.
Incroyable.
Donc,
c'est un peu des conseils à la con, ça, je trouve.
Non, mais c'est pas un conseil.
Non, mais c'est pas parce que t'es Jean-Pierre Bacri que tu sais ce que c'est le sens du dialogue. Puis il y a 10 000 manières d'avoir le sens du dialogue.
Oui, mais nous, on y a cru. Nous, on s'est cramponné à ça.
Ça aide.
Ça donne confiance parce qu'il y a un mec que t'aimes bien qui t'a dit sympa.
Mais ça a valeur, c'est comme quand tu tires les cartes, quand tu te fais des petits tarots tout seul, tu cherches des signes, t'as besoin de signes.
Il a le droit de trouver, il y a des gens qui ont le droit de dire qu'il faut travailler ici et ça et qui améliorent vraiment les choses.
Non, moi mon seul conseil, que j'ai pas pu dire tout à l'heure, c'est pour la comédie en tout cas, c'est écrivez des choses qui vous font rire vous.
Ah oui.
C'est vraiment le seul truc à faire.
D'accord.
Parce que souvent, en plus, quand t'es humoriste à France Inter, tu reçois des textes de jeunes chroniqueurs ou chroniqueuses qui écrivent pas mal avec des jeux de mots parce qu'ils se disent c'est France Inter, faut que je sois un peu littéral, machin.
Parce qu'il y a alors certes, il faut pas.
Et souvent, je réponds est-ce que déjà toi ça te fait rire quoi. Et c'est rare que tu te bidonnes avec un jeu de mots. Faudrait le dire à certains. Non, mais je veux dire, à tout un texte sur les jeux de mots, faut vraiment que ce soit hyper bien foutu. Enfin bref. Donc, quasiment la vie de Jean-Pierre Bacri sur ce que tu fais,
c'est une sorte de béquille quand tu doutes et que tu dis que ça va pas plaire.
Non, mais doutez pas. Deuxième conseil.
Oui, mais quand
t'es. De toute façon, ça va pas marcher.
C'est quelque chose que tu ne maîtrises pas.
De toute façon, c'est de la merde ce que vous faites. Ne doutez pas, on s'en fout.
C'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. C'est comme si.
Dans 5 milliards d'années, le soleil n'aura plus assez de.
Oui, alors là par contre il a pas tort, là je le rejoins.
C'est un
petit peu Jean-Claude Duss quoi, sur un malentendu ça peut marcher.
Oui ou pas, c'est même pas l'enjeu c'est même pas marcher.
Mais Guillaume, ça relève de la même chose de quand t'es une adolescente et que tu te trouves forcément laide, puisque tu es une adolescente, c'est le principe d'une adolescente de se trouver laide, à de rares exceptions près.
Mais tu es laide, mais c'est pas grave.
Mais sauf qu'il y a quelqu'un un jour qui te dit... Eh ben, moi, je te trouve jolie.
Eh ben, il ment.
Eh ben, cette personne t'aide.
Ça aide,
c'est indéniable. Tu le sais bien qu'aux yeux de quelqu'un, tu es beau.
Ouais.
Alors que tu sais que t'es moche. T'es une adolescente. T'es moche.
Ouais, mais moi, pas trop le mensonge. J'aime bien la
lucidité brute. Je te trouve jolie n'est pas un mensonge. La personne n'est pas en train de te dire « Tu es Ava Gardner ».
Je me souviens d'ailleurs d'un prof, c'est toujours le même, celui de deuxième année. Souvent, les comédiens, quand t'es jeune comédien et comédienne, sur scène, t'essayes d'être beau, quoi.
Ouais.
T'essayes d'être super, de montrer ton beau profil et les petits. Mais de toute façon, on voit tes cellules, elles sont en train de crever. Dès que tu bouges les bras, t'as toutes tes peaux mortes qu'on voit pas, mais qui sont. Tu t'es en train de mourir. Et ça, c'était hyper
trop
violent.
Réaliste,
et je vais te dire, putain, il a raison. Ça sert à rien de faire genre. Voilà. Et ça m'avait marqué. Et je sais plus si c'était une nana ou un mec, mais. Il a fait d'accord.
Ouais, mais
il avait repris, c'est moi son kéké quoi. J'aime bien ça, la lucidité. C'est ça qui va nous sauver, Juliette Arnaud.
Ah.
C'est pas de se faire croire qu'on est des génies ou.
Mais il s'agit pas
de. Le génie, c'est des conneries. Le talent, c'est des conneries.
Mais tu peux améliorer quelque chose. Non, mais c'est pas tant de dire on est des génies.
Non, faut changer d'échelle.
Non, mais
faut changer les enjeux.
Mais oui.
Améliorer, ça veut rien dire. Réussir, ça veut rien dire.
Mais arrête de dire n'importe quoi. Quand tu fais ton spectacle. Entre le moment, j'étais à la première, il faudrait que j'aille maintenant le voir. Je pense que tu as beaucoup changé de choses, tu as amélioré le spectacle.
Ça veut pas dire qu'il faut pas changer les choses.
Mais c'est ce qu'il a dit, Bacri. Quand il prend le scénario de Juliette, il dit
il
y a un sens
de
dialogue. Non, il dit vous avez le sens des dialogues.
Ça veut rien dire que tu as le sens des dialogues.
Mais si.
Ça veut rien dire.
Ça veut dire que les personnages, pour lui, ils parlent.
À son goût, ouais.
Mais parce que pour lui, ça sonnait vrai.
Oui, mais comme elle aime.
Mais il dit qu'il faut améliorer la tension, il n'y a pas de tension, et machin.
Mais le peuple français, il n'est pas composé de 67 millions de Jean-Pierre Bacri.
Non.
Donc ça
non, mais il se trouve que nous, notre référence de comédie,
je comprends.
C'était plus. Non, mais j'entends ce que tu dis, ça. Et t'as, sur, en fait, au niveau universel.
Référence de comédie.
En tout cas, c'est tout ça pour en revenir.
Quand t'es en construction, tu ne sais pas forcément encore.
T'es tout le temps en construction. Il y a zéro moment de ta vie où t'es pas en construction.
Un point à ma droite. À ma droite, il y a Guillaume.
Mais il y a un moment dans ta vie où tu peux. Disons qu'il y a un moment où tu peux valider certaines choses. Tu peux être sûr de certaines choses.
Bah c'est là où tu deviens ringard.
Non, pas forcément.
On valide rien.
Excuse-moi, si tu
Et coupé, ça ne serait pas une de tes plus grosses angoisses d'être ringard?
Ouais, si. Bah, il en parle trop.
Non, je veux dire, quand tu es satisfait de toi-même, quoi.
Ah.
Bah, c'est pas une angoisse, mais je pense qu'il faut être vigilant.
Et tu penses que c'est pour ça, c'est comme ça que les ringards sont des ringards? C'est parce qu'ils ils sont contents d'eux?
Bah, en fait, souvent, c'est
quand
tu as.
Alors, ça fait beaucoup de monde. Hein.
Ça fait beaucoup de monde. Non, mais souvent, c'est quand tu as un capital. Tu te dis, par exemple, aujourd'hui, je suis à France Inter, les gens ils me reconnaissent un peu dans la rue, et tu te dis, oh putain, il faut que je préserve ça, quoi.
Ouais.
Oh putain, là, si un jour je perds ça, c'est là où t'es mort, à mon avis.
Ceux qui disent mon public.
Voilà, ceux qui disent mon public. Voilà. Peine de mort, directement. Voilà. Désolé. Eh oui, mon public, qu'est-ce qui t'arrive? Mais non.
Ouais, mon public n'existe pas.
Eh oui, mon public n'existe pas du tout. Ouais. Puis les gens, ils ont autre chose à faire. Ils t'aiment bien parce que t'as fait une chronique marrante ou. Ils t'écoutent et c'est tout. Après, ils ont des loyers à payer.
C'est éphémère. À un moment, ils t'écouteront plus.
C'est vivant.
Voilà.
Puis à un moment, on sera tous morts. On va tous y passer, non?
Mais c'est pareil quand tu dis mon public. Non, mais.
Ah ben moi, j'aime bien la contradiction.
Non, mais quand tu dis mon public, là, tu parles de la personne, de l'humoriste qui dit mon public. Mais si tu sors un peu de son point de vue à lui, qui est angoissé, qui dit mon public, il faut que j'ai mon public. En fait, son public, à un moment, toi-même, quand tu as démarré, tu sais pas où tu vas. Tes premiers spectacles, pour revenir à ce que disait Ramzi, tu sais pas où tu vas. Donc, tu constitues un public. Mais ça veut pas dire, en fait, on se constitue pas un public. Ça veut juste dire que tu es en train d'essayer de trouver ce que tu es comme humoriste.
Eh ben ça, c'est des conneries. Il faut aller vers son risque, comme disait René.
Non, mais ça peut être ça, ton humoriste. Tu peux aller vers le risque.
Musique, tout. Hyper marrant, c'est hyper stimulant.
Et là, ça t'a perdu du public avec ton
groupe de musique. Ouais, mais on s'en fout.
Ah bon disruptive.
Bah parce que les gens, c'était moins identifié comme un one-man show. Donc les gens, ils disaient, maintenant, il fait de la musique.
Oui, mais c'était plein quand même.
On s'en fout.
C'était plein.
Oui, c'était plein parce que j'étais à la radio tous les jours et tout.
Donc t'avais ton public. Il avait un public, c'est pas son public.
Là, chers auditeurs, chères auditrices, on est passé dans une discussion qui s'appelle une double vasque. C'est le moment où il n'y en a aucun des trois qui veut lâcher pour reconnaître que peut-être.
Et ben c'est sur cette double vasque qu'on va mettre fin au podcast.
Je vais parler à voix basse quand tu parles.
Et encore
c'est le premier épisode.
Guillaume,
moi je reviendrai.
Ah, merci déjà. Mais est-ce que tu as une actu en ce moment? Tu as ton spectacle en tournée?
Spectacle en tournée et j'ai deux bouquins qui sortent coup sur coup.
Ah c'est dommage parce que
c'est
vraiment,
le retour de la vengeance.
Alors, pas chez Bolloré.
J'espère que tu reviendras parce que c'est vraiment un point que je voulais aborder, les livres.
Ouais.
Comment t'es passé de l'écriture d'un spectacle
et puis peut-être aussi la drogue au travail, la drogue du travail, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses.
Pas la drogue au travail, mais la drogue du travail.
Du travail hein, parce que on peut dire que t'es workaholic un petit peu, non?
Et donc,
non, parce que je travaille pas. C'est comme si tu me payais pour jouer au Lego.
Ouais, tu t'arrêtes jamais. Donc
tes livres, c'est quoi?
Eh bien, petit éloge de la médiocrité, 2 février, vraiment, où j'explique ça, que ça sert à rien d'essayer de se valider socialement, on est tous nuls, on est tous des merdes, et le seul truc qui peut nous sauver, c'est de faire des liens entre nous, et c'est le collectif, quoi, qu'il faut arrêter, voilà, la quête de la performance.
C'est chez qui?
Chez une petite maison d'édition très sympa qui s'appelle Les Pérégrines, c'est des meufs super chouettes. Qui édite très très bien, et c'est une collection qui s'appelle Petit Éloge 2, donc il y a plein de choses.
D'accord, ah oui.
Notamment Petit Éloge du Running par Cécile Coulon.
C'est vrai. Oh non.
Pour couper. Mais c'est vrai. Voilà, donc allez.
Et le deuxième?
Et le deuxième, et c'est le fameux livre qui sent le soufre.
Le livre interdit.
Ouh. Le livre interdit.
Aïe, aïe,
censuré
aïe.
Par les milliardaires, qui va s'appeler Le fin mot de l'histoire, et qui est livre qui a été censuré par Bolloré.
Et qui sera donc édité chez
Flammarion.
Très bien.
1er mars.
Flammarion, ça devient vraiment le haut lieu de résistance.
Mais parce que c'est Gallimard, et Gallimard, ils peuvent pas blairer Bolloré. Donc, voilà. Et comme le troisième gros pôle d'édition, c'est Hachette, et que Bolloré est en train de tenter de racheter Hachette, j'ai pas eu beaucoup de propositions de la part d'Hachette pour reprendre ce livre.
Ouais, de la même manière que TF1 est en train de devenir le nouveau canal, lentement.
Exactement.
Mais sûrement, c'est fou, et dans l'édition, c'est Flammarion qui est en train de devenir...
D'ailleurs, comme on est en janvier... Vous avez pu voir en décembre que j'ai sorti un documentaire TF1.
Il est disponible. Il est disponible en replay.
Qui doit être disponible en replay.
Moi je l'ai vu, il était super.
Il était excellent.
Vraiment.
Avec des cétacés en captivité. Sur les cétacés en captivité.
On enregistre le 23 novembre, donc on l'a pas encore vu.
Voilà, c'est ça.
Ah,
la vérité, c'est dit tout.
Bah merci beaucoup.
Merci,
Yo,
merci,
merci Juliette, merci Bio, François, merci Ramzi.
Et Ramzi, il a pas beaucoup parlé de lui. Hein. Faudra qu'il parle de lui la prochaine fois.
On fera un épisode spécial. Il a fait tout ça. Un spin-off sur Ramzi.
Ouais. Et merci de nous avoir écoutés. Et puis à bientôt.
Ah ouais.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow-up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.